Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Notre prochain invité nous a envoyé un message il y a quelques semaines de ça, après avoir vu le passage de François Descraques à la veillée, qui était à la précédente veillée, qui était venu raconter un épisode assez dur de sa vie. Donc il a eu un problème de santé, si vous avez vu la vidéo, c'est une épreuve très difficile, évidemment. Et donc la personne qui nous a envoyé ce message a été marquée par ce témoignage. Elle et son mari, ils ont été marqués par ce témoignage parce qu'ils ont vécu quelque chose de similaire. Et donc j'ai appelé cette personne, on a discuté pendant une heure, et j'ai été bouleversé par son histoire, et je me suis dit qu'il fallait qu'elle vienne la raconter sur la scène de la veillée. Donc je compte sur vous pour lui offrir un cocon protecteur d'amour. Merci d'applaudir très fort, Carole.
Bonsoir. L'histoire que je vais vous raconter ce soir commence le 16 avril 2021. C'est notre sortie d'isolement Covid de 14 jours. 14 jours où, avec mon conjoint, qui est en télétravail au milieu du salon, et nos deux enfants, nos deux garçons de 5 et 2 ans, on est confinés. À 16h, Jonathan décide de partir faire du golf avec son pote Vince. Avant qu'ils partent, je négocie qu'ils nous ramènent les sushis. Ces sushis, ils arriveront jamais. Parce qu'à 18h, quand Vince m'appelle, c'est pour m'annoncer que Joe est inconscient, qu'il convulse et que les pompiers sont en route. Je pars tout de suite avec les enfants les rejoindre. Quand j'arrive, les pompiers sont déjà en train de prendre en charge Jonathan. Je retrouve Vince en état de choc. Il m'explique qu'il a entendu un des pompiers dire que Joe présentait une asymétrie des pupilles. Je suis infirmière. Je comprends tout de suite que c'est grave et ce symptôme, il m'évoque une hémorragie cérébrale. À partir de là, je ne vais plus poser de questions, probablement pour ne pas connaître les réponses. Mes deux enfants sont avec moi, dans mes bras. Ils sont silencieux. Et sans un mot, ils vont accepter de partir avec une amie qui prendra soin d'eux pendant 24 heures. Joe va être muté à l'hôpital neurologique de Lyon. Quand on arrive là-bas, on est accueilli par une médecin du service de réanimation. Elle nous installe dans une pièce avec une grande table ronde. Cette pièce, je la connais. Je l'ai déjà vue pendant mes études, pendant le module don d'organes. Ça annonce rien de bon. Elle m'explique que Joe a eu une rupture de malformation artério-veineuse cérébrale. Je comprends rien du tout. Qu'il a une hémorragie au cerveau importante, mais qu'il est jeune, 34 ans, et que du coup le chirurgien a décidé de tout tenter, mais que son pronostic vital est engagé. Donc là, je me dis que si par miracle, il passe la nuit, je ne sais même pas dans quel état il se réveillera. L'opération va durer une bonne partie de la nuit, et cette nuit, je vais la passer avec des amis, et loin de mes enfants, et loin de Jonathan. À 6h du matin, la médecin m'appelle pour me donner des nouvelles de Joe. Elle m'explique que le chirurgien a fait tout ce qu'il souhaitait faire, que les jours à venir seront décisifs concernant son pronostic vital, et qu'actuellement, on ne peut pas connaître les séquelles causées par l'hémorragie sur son cerveau. Je m'effondre. Et puis là, je demande quand est-ce que je peux venir le voir. Et là, je réalise que ça fait 12 heures que j'ai complètement zappé le contexte de la pandémie, les visites limitées, les réanimations saturées. C'est un deuxième coup de massue. Finalement, cette semaine-là, on va m'accepter 3 visites. C'est pas assez pour moi. Je vais aller le voir le samedi, et quand je vais rentrer, après avoir récupéré mes enfants, mon appartement, il est plein. de tous nos amis, nos familles. J'ai très peu de souvenirs de cette soirée-là, mais je me rappelle juste que c'était rassurant. Les potes, ils vont tout de suite mettre en place un planning pour que chaque soir, il y en ait un d'eux qui soit avec nous et qu'on soit jamais seul. On a vraiment beaucoup de chance. Joe passera 7 jours en coma artificiel, intubé, ventilé. Pendant cette période-là, je vais rencontrer le docteur Berouma, le chirurgien qui l'a opéré. C'est vraiment quelqu'un de gentil, de bienveillant. Il m'explique un peu plus la situation et il me dit que pour mettre toutes les chances de son côté, il lui a retiré une partie de sa boîte crânienne et qu'elle lui sera réimplantée plusieurs mois plus tard. Ça m'horrifie. Il m'explique que c'est compliqué de connaître les séquelles en neuro, que chaque AVC est différent, mais qu'il est jeune. Et puis 7 jours après son accident, Jonathan va décider lui-même de mettre fin à son coma artificiel. Il va déclencher le code rouge en réanimation. Dans un moment d'agitation, avec ses dents, il a sectionné un tube du respirateur. Ils vont devoir l'extuber d'urgence. Connaissant Joe, son caractère, sa détermination, ça ne surprendra personne. Et je ne suis pas peu fière. Il faut savoir qu'en réanimation, comme je n'ai pas beaucoup le droit de visite, j'ai une équipe incroyable qui prendra toujours le temps de répondre à mes appels, le jour comme la nuit. Ils prendront toujours le temps de m'annoncer des nouvelles encourageantes ou inquiétantes. La deuxième semaine, il la passera en chirurgie, en service de chirurgie. Peu de temps après qu'il soit muté, je téléphone pour avoir de ses nouvelles. Et l'infirmière, là, me dit « Oh, je ne le connais pas beaucoup, mais il ne comprend pas grand-chose. Hein. » Merci pour le tact. Hein. Et puis là, je lui demande quand est-ce que je peux venir le voir. Et elle me dit « Ah, là, en chirurgie, les visites, elles sont strictement interdites. » Alors là, ok, je comprends, je suis infirmière. Mais là, c'est mon amoureux. Alors je comprends, quand il était en réanimation, son pronostic vital était engagé. Il était entre la vie et la mort, on ne pouvait pas m'empêcher de le voir. Mais là, il est réveillé. Je ne sais même pas s'il se rappelle de moi, s'il se rappelle de ses enfants. Et je l'imagine complètement perdu dans sa chambre. Dans un état de panique, je pars dans le centre de vaccination Covid le plus proche de chez moi. Comme je suis infirmière, je suis prioritaire pour la vaccination. Et naïvement, je me dis, ils seront peut-être plus indulgents et ils me laisseront voir si je suis vaccinée. Et puis je pars acheter une tablette, un iPad. Je me dis, ok, comme ça, je le laisse à l'équipe et ils pourront organiser des appels visio pour qu'ils voient ses enfants, pour que nous, on puisse le voir et que je puisse le rassurer. Encore une fois, je suis vraiment naïve. Parce que sa réponse, je la connais, je suis infirmière. On n'a pas le temps pour ça, madame. Prenez-lui plutôt la télé. Et puis vient le moment où c'est le départ ensemble de rééducation. Avant son départ, on m'explique que le plus dur est devant nous. J'ai du mal à croire qu'on puisse faire pire, mais ok. Que c'est un marathon qui commence, qu'il va lui falloir plusieurs années pour récupérer. Que pour lui, ça va être l'équivalent d'un entraînement pour un sportif de haut niveau. Qu'il va y avoir des hauts et probablement beaucoup de bas. Et qu'actuellement, on ne peut pas savoir à combien de pourcents il va pouvoir récupérer ses capacités. Il part au centre de rééducation. Et là, tout de suite, on m'appelle. L'infirmière qui m'appelle, elle est tellement gentille, tellement rassurante. Elle me dit de ramener des habits. Et là, je suis hyper contente. Je me dis, ça y est, il va quitter cette blouse d'opéré complètement impersonnelle. Et elle me demande de lui ramener des affaires de sport. Ça y est, on y est. Le centre de rééducation, il est au milieu d'un immense parc. C'est super joli. Ça s'appelle le Val-Rosé. Et heureusement qu'il est là, ce parc, parce que le protocole Covid et les protocoles Covid sont toujours d'actualité. Et les enfants, ils auront le droit de voir leur papa, mais qu'à l'extérieur. Ils verront leur papa 1 mois et demi après l'accident. Et Joe, il va se fixer qu'un seul objectif. Quand mes enfants, ils viendront me voir, je veux être sortie de mon fauteuil roulant. Il va relever son pari. Les premiers bilans tombent, et entre autres l'orthophoniste. Elle nous explique qu'il a une aphasie sévère, c'est un trouble du langage. En gros, l'élocution est bonne, mais c'est une espèce de salade de mots. Ces phrases, elles n'ont aucun sens. Ça s'appelle l'aphasie. Et qu'il a perdu la lecture et l'écriture. C'est hyper dur pour moi de le voir aussi vulnérable. Dans ce centre, on va beaucoup pleurer, mais on va aussi rigoler. Ellie, notre dernier, il va fêter ses 2 ans dans ce parc. Il va apprendre à faire de la draisienne là-bas. Et Camille, il va peaufiner sa technique de trottinette de freestyle. Avec les potes, on va faire des barbecues. Et des pique-niques. C'est assez fou, mais franchement, c'est super chouette. Et puis, un jour, lors d'une visite, Jonathan, malgré son aphasie, il va me dire tout de suite, écoute ma chérie, j'ai failli crever. J'ai plus de temps à perdre. Il faut que je vous protège avec les enfants. Je veux qu'on se marie. C'est une drôle de demande. Mais il a tellement raison. Alors du coup, il va se prévoir 2 choses. D'un côté, la programmation de la repose de son volet crânien, sa tête, comme il dit. Et de l'autre côté, nos 4 témoins vont organiser un mariage. Simple, sans prétention. Le chirurgien, il va adapter la date de l'opération par rapport à la date de notre mariage. Définitivement, le docteur Berouma, c'est quelqu'un d'incroyable. Et puis vient le retour à la maison. Et le passage en hôpital 2 jours, 3 fois par semaine. On nous dit que tout va bien se passer, mais ce n'est pas le cas. Au fur et à mesure des jours, l'état de Joe se dégrade. Il avait récupéré au niveau de la motricité et il commence à la reperdre. Et au fur et à mesure des jours, il devient muet. On nous dit que c'est le retour à la maison, ça arrive souvent. Ok. Ensuite, on nous dit que c'est la dépression. Ils le mettent sous antidépresseur. Mais ça ne va pas mieux. Ces 2 mois à la maison, ça va être un véritable cauchemar pour nous 4. Les enfants, ils vont le voir chuter. Joe, il se bat. Donc je me dis qu'il ne faut pas que je réfléchisse, il ne faut pas que je lâche. Parce que lui, il s'accroche. Mais je vais devenir son aide-soignante, son infirmière, son aidante. Et au bout de 2 mois, il va me supplier de le faire réhospitaliser. Il n'en peut plus, il me dit « c'est pas moral ». Il frotte sa jambe et il me dit « il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ». Et il aura raison. Parce que le 29 septembre, après un report d'opération d'une semaine, parce qu'il n'y a plus suffisamment de personnel au bloc opératoire, il va être opéré d'une hydrocéphalie. Ça se passera bien. Et 6 mois après, il sera encore opéré. 4 opérations en 1 an. Il est vraiment courageux. Normalement, les opérations sont derrière lui. Et maintenant, il faut réapprendre à vivre. Mais on ne se reconnaît plus. Moi, je ne reconnais plus Jonathan. Les enfants ne reconnaissent plus leur papa. Et je crois que même lui ne se reconnaît plus. Et la dépression arrive. Pour lui, pour moi. Je trouve ça dégueulasse ce qui nous arrive. Je ne comprends pas. Et je me demande comment notre famille elle va s'en sortir de tout ça. Et puis récemment, je vais me poser. Ma psy me dit, bien sûr qu'il n'est plus comme avant. Mais vous 4, en fait, vous êtes plus comme avant. Réapprenez à vivre. Et donc, je vais me poser une question. Ok, soit cet AVC, il pourrit le restant de notre vie. Soit on décide de se réapprendre et de revivre. On va choisir la 2e option. On n'est plus une famille ordinaire. Mais ma copine Popo, elle aime bien me dire qu'on est une famille extraordinaire. Et ça, c'est la classe. Alors, je ne vais pas vous mentir, le quotidien, il n'est pas facile tous les jours. Parce que l'AVC, c'est des séquelles qui se voient, mais c'est aussi beaucoup de séquelles invisibles. Une chose est sûre, c'est qu'on est tous les 4 ensemble et qu'on se réapprend. Dans tout notre malheur, on a eu la chance de tomber sur les bonnes personnes, d'être entouré par des soignants et d'être entouré par nos amis, nos familles. Joe a dit qu'à 50%, s'il a récupéré aujourd'hui, si ça va mieux, même si le marathon continue toujours, il dit que c'est grâce à moi et aux enfants. C'est gentil. Et moi, je le remercie de s'être battu pour nous. Finalement, ce 16 avril 2021, c'était soit notre sortie d'isolement Covid, mais c'était surtout le premier jour du reste de notre vie. Et ce soir, Jonathan, il est là. Et je le remercie de s'être battu.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.